Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Aymeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente? Comment ont-elles fait pour réussir? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Quel bonheur de recevoir Arnaud Gazé cette semaine dans l'émission. Arnaud, c'est un passionné de musique depuis sa plus tendre enfance. Mais aujourd'hui, il est surtout un virtuose de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'a pas été un choix pour lui. L'entrepreneuriat lui a été la porte d'entrée de son émancipation. Arnaud, c'est un créatif et un bosseur. Franchement, il ne compte pas ses heures. Et c'est aujourd'hui dans le cadre de sa nouvelle entreprise Reefer que j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Une rencontre passionnante où ensemble nous avons déroulé le fil de sa vie. Alors maintenant, je vous laisse découvrir le parcours hors du commun d'Arnaud en vous souhaitant une très bonne écoute. Bonjour Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Salut Aymeric, c'est un grand plaisir, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui.
La première fois que j'ai parlé de toi sur ce podcast, c'était avec Caroline, que maintenant je ne présente plus. Ouais. On avait parlé de toi, de votre fabuleuse rencontre sur Clubhouse. Fruit du hasard, et aujourd'hui, je t'ai avec moi, on va parler de Reefer, on va parler de toi, ça va être génial.
Ouais, Caroline, c'est quelqu'un de très important pour Reefer, c'était vraiment une super rencontre. C'est aujourd'hui devenu notre directrice marketing, elle est cofondatrice et associée également maintenant, mais c'est vrai comme quoi les réseaux sociaux peuvent amener à des belles histoires et les belles rencontres, c'est vraiment notre moto, quoi. C'est vraiment ce qui nous motive.
Ouais. Et j'aimerais commencer par parler de toi, parler de ton enfance. Quel genre d'élève tu as été? Quel type d'enfance tu as eu?
Alors moi, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs enfances. Il y a eu toute une partie, tout mon début de scolarité qui était un peu particulier, où j'avais l'impression d'être un peu dans le top de la classe. J'étais dans les premiers à savoir lire, dans les premiers à savoir écrire et on était dans ces fameux petits groupes d'élèves en maternelle, tu sais, qu'on met un peu à part et qui peuvent faire des activités que les autres ne font pas, etc. Donc c'était un vrai privilège. Et puis en fait, assez rapidement, je me suis retrouvé en queue de liste. Vers le CE2, je pense, ça a un peu basculé. Du coup, je pense que tout le reste de ma scolarité, j'ai été un vrai cancre. Voilà. J'étais, je pense, pas à ma place. J'étais pas forcément dans des écoles qui me permettaient de pouvoir apprendre mieux et qui s'adaptaient aussi à qui j'étais, et du coup ça a été catastrophique pour moi voilà, j'ai arrêté l'école très 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 jeune. Voilà.
Avant le bac,
exactement. J'ai fait une école, un peu une école d'art, tu vois, post brevet. Et en fait, je faisais de la musique énormément et j'avais envie de faire de la musique dans ma vie. J'ai commencé à travailler en alternance à 16 ans. J'ai énormément appris. Moi, ça m'a beaucoup plu d'être dans quelque chose d'hyper concret et d'apprendre là-dedans et puis de continuer à apprendre par moi-même. J'ai eu à ce moment-là des rencontres fabuleuses. Sauf que à l'école, j'étais pas hyper motivé parce que je faisais, voilà, je voulais faire de la musique, moi j'étais vraiment un créatif et en fait j'avais besoin de créer au quotidien et j'ai décidé de tout plaquer avant le bac pour aller faire une école de musique. Voilà, une école de musique, il a fallu que je me paye.
Et tu faisais quel style de musique?
À l'époque, je faisais du rock, hein, je pense comme beaucoup. Ensuite, j'ai un peu basculé dans la musique électronique, dans le trip-hop, etc. Donc, le trip-hop, ça parle plus à grand monde aujourd'hui, mais c'était le courant, moi, que j'écoutais beaucoup à l'époque. J'étais guitariste et du coup, je faisais beaucoup de musique qui était à la fois un mélange entre de la musique acoustique et de la musique électronique. Ça me plaisait beaucoup.
Très clair. Et qu'est-ce qui t'a fait virer dans l'entrepreneuriat? Parce que là, tu étais dans la musique, en école de musique, ouais. Tu faisais de la musique.
Ouais. Exactement, ouais. En fait, j'ai fait une année d'école. Je pense que j'ai pas bien choisi mon école. Elle m'a coûté super cher. Moi, je viens d'un milieu assez modeste et en fait, mes parents pouvaient pas me payer cette école. Donc, il a fallu que je continue de travailler pendant que je faisais cette école. Et ça a été, c'était un vrai challenge de pouvoir faire ça en parallèle. Je pense que j'étais pas hyper assidu. J'ai pas travaillé ce que j'aurais dû travailler. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que si tu veux faire de la musique, si tu veux vivre de la musique, il faut être au-dessus du lot, quoi. Il faut être au-dessus du lot. Il faut se donner plus que les autres. Il faut avoir aussi un peu le petit truc en plus que j'avais pas forcément, le petit truc en plus dans l'écriture, etc. On n'a pas, on fait pas tous de la musique pour sortir de la musique et produire de la musique, mais il y a plein de métiers connexes. Mais en tout cas, je pense que moi, ce qui m'intéressait, c'était de d'écrire et de créer. Et je pense que j'avais pas ce petit truc en plus. Et du coup, il aurait fallu que je travaille énormément. Sauf que la réalité un peu de la vie m'a rappelé à me dire que ça serait compliqué d'en vivre. Voilà. Et du coup, assez rapidement, j'ai trouvé une alternative qui était de mêler un peu d'où je venais, c'est-à-dire de plutôt le web design, l'école d'art que j'avais pu faire et la musique. Et je suis rentré dans un média dans la musique qui s'appelle Audio Fanzine et dans lequel j'ai fait mes armes, dans lequel j'ai découvert ce que c'était qu'une communauté, ce que c'était que le web. Aussi, en fait, en réalité, à l'époque, c'était l'époque des forums. Donc, eux, ils innovaient pas mal, justement, autour de ça. Ils avaient une base de données, tu vois, imbriquée avec des forums, c'est-à-dire que tu pouvais avoir des forums sur la musique en général, sur les guitares de telle marque, etc., etc. Et tout était hyper imbriqué, donc c'était hyper innovant. Et c'était quand même une communauté d'un million de membres à l'époque, donc c'était colossal. Et du coup, j'ai découvert ça, j'ai découvert les métiers du web et je crois que j'en suis jamais vraiment sorti, quoi.
Et d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, tu as eu ton premier enfant à 21 ans.
Ouais, c'est ça. Je pense que ça a été un vrai moteur parce que je me rends compte que je n'ai pas répondu tout à fait à ta question. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est arrivé un petit peu plus tard. Et je pense qu'effectivement, avoir un enfant, c'est quelque chose qui, quand tu l'as à 21 ans, te motive à monter les marches rapidement. J'ai eu un enfant dans un contexte où j'étais seul à travailler, où je gagnais à peu près le SMIC et où il fallait que je puisse un peu assouvir, alors même si on avait un peu de l'aide des parents, une aide modeste, mais il a fallu quand même que je puisse assouvir aux besoins de la famille. Et puis j'avais surtout des grandes ambitions. J'ai toujours été un grand rêveur et j'ai toujours eu envie de créer des belles choses. Et en fait, je pense que le vrai moteur pour moi de devenir entrepreneur, ça a été avant tout un désir d'extraction de mon milieu d'origine, en fait. Ça a été un désir de gagner mieux ma vie, de pouvoir arrêter de compter mes sous tous les matins, etc. Et en fait, je suis passé, je n'ai pas tout de suite été un entrepreneur qui avait des salariés, qui est un entrepreneur qui monte une entreprise, qui a des salariés, etc. Mais j'ai été d'abord indépendant, j'ai été freelance. Et ça a été mon pied vers, ça a été un premier pas vers l'entrepreneuriat. Le fait de parler avec des clients, le fait de savoir ce que c'est qu'un client, d'aller chercher des clients, de me découvrir aussi une petite vocation pour le business et le fait de vendre, parce que un truc que j'adore finalement, ça arrive même à des créatifs. Et du coup, c'est, je pense que le fait de devenir entrepreneur, ça venait à l'origine vraiment de ce désir de monter les marches les unes après les autres et de m'extraire de mon milieu d'origine, en fait.
Donc, c'était ton ambition, ton rêve. Est-ce qu'une fois que tu arrives à atteindre ce rêve, tu en as d'autres qui se créent ou tu es encore perpétuellement en train de rechercher le même rêve qu'à 21 ans?
C'est une bonne question. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pour moi, c'est avant tout c'est créer, c'est construire, créer de toute pièce quelque chose qui n'existe pas. Je pense que ce qui m'épanouit finalement depuis toujours, c'est d'avoir une idée, de trouver un marché, de la bâtir, en fait, de la rendre concrète. Ça c'est ce qui me motive et c'est toujours ce même rêve. C'est à chaque fois un nouveau projet, c'est à chaque fois une nouvelle façon de le faire. Mais ça, c'est effectivement un tronc commun dans ce que j'aime dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Et puis après, il y a le challenge de l'entrepreneur qui, lui, évolue. Et en fait, ce qui me motivait à l'origine, c'était monter des boîtes. Chaque nouvelle idée, chaque personne que je rencontrais était potentiellement une nouvelle opportunité pour créer quelque chose de nouveau. Et puis, en fait, avec le temps, des nouvelles choses m'ont intéressé. Ça a été de bâtir une société dans laquelle je pouvais embaucher des personnes. Donc, j'ai eu le plaisir d'avoir des dizaines de salariés, de les voir grandir, de grandir avec eux, etc. Et puis ensuite, ça a été de pouvoir avoir du chiffre d'affaires. C'était vraiment ma motivation. C'était réussir à passer le palier du million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était une vraie motivation. Et puis quand je l'ai eu fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne gagnais pas plus d'argent. qu'il y a un deuxième challenge, c'était comment tu fais en sorte d'être rentable, qui était une question que je me posais moyennement, en fait, tu vois, dans mon projet. Et en fait, tu peux être rentable dès 100 000 euros de chiffre d'affaires ou même dès 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand je gagnais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bah, je gagnais peut-être moins bien ma vie que quand j'étais indépendant et que je produisais pour moi. Et donc là, j'ai appris, en fait, j'ai eu des nouveaux challenges, j'ai appris à mieux compter les sous. J'ai une équipe formidable à mes côtés avec qui on a fait ce travail-là, avec qui on a appris à devenir une entreprise rentable. Et puis ça c'est un peu tout le challenge de ce qu'on appelle aujourd'hui le bootstrap, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais quand t'es pas une startup qui lève des fonds, que tu pars de rien, que t'es dans le service, que il faut aller vendre au quotidien et que chaque année il faut recommencer. Ça, ça a été un vrai challenge. Et puis, moi, à l'époque, j'avais une agence de marketing digital. C'est une agence que j'ai fondée il y a une douzaine d'années, qui s'appelle Zaget. Et le challenge pour moi, je pense, à cette époque-là, c'était de gagner des grands comptes, quoi. Tu vois, j'avais un peu ce rêve de l'agence qui devait aller se battre contre des agences, etc. Et ça, c'était encore un autre rêve d'entrepreneur, tu vois. Et c'était gagner des compètes. Et on a eu la chance d'être dans des grandes compètes. On a eu la chance de se battre, d'avoir été qualifié pour monter face à des BETC, à des Webedia, à des Publicis, etc. Et on a eu la chance de gagner des grands comptes. On a notamment gagné, tu vois, tout Sephora, la Content Factory pour Sephora dans l'Europe et le Middle East. Et ça, c'était incroyable, hein. C'était des contrats énormes, tu vois. Et c'est un contrat qu'on a gagné 4 ans, 5 ans. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, après avoir gagné ce truc, qui était le Graal, que face à BETC, face à, tu vois, aux plus grandes agences qui existent, en fait, je me suis dit que ça y est, la case était cochée. J'avais plus la même niaque dans les compètes, si tu veux. C'était super, mais en fait, j'avais l'impression au bout de 10 ans, tu vois, d'avoir fait un peu le tour du truc et surtout d'avoir fait mes preuves. Je pense que j'ai fait beaucoup les choses, tu vois, pour les cocher, quoi. Et en fait, ce qui a été vraiment motivant pour moi, ça a été de monter après des boîtes qui ressemblaient plus à des startups, en fait. Des boîtes qui ressemblaient plus à des startups. Excuse-moi, tu voulais m'interrompre ?
Non, vas-y, je t'écoute. Intéressant ce que tu racontes, justement.
Des boîtes qui ressemblaient plus à des startups et qui, en fait, d'une idée, d'un concept, peut potentiellement toucher des centaines de millions de personnes. Et en fait, moi, ce qui m'a motivé au début, c'était de faire une boîte, et je pense que je n'avais pas le bon rêve. C'est-à-dire, ce que je voulais, c'était faire une boîte avec laquelle je pouvais lever de l'argent. Alors, mon rêve, c'était... mon rêve. Mon objectif, c'était lever de l'argent. Et en fait, je pense que c'était pas le bon objectif. Et j'ai monté une boîte à ce moment-là, tu vois, qui est un peu dans les médias et qui venait complètement changer. Je pense qu'il y a une boîte qui avait un vrai fond, qui apportait vraiment quelque chose, qui venait radicalement changer tout un secteur qu'on appelle les opérations spéciales. dans les médias et on rendait les opérations spéciales programmatiques. C'est-à-dire qu'en fait, on était capable d'acheter directement du média, d'aller chercher des audiences spécifiques, de leur offrir des expériences ultra personnalisées sur des sites et ensuite de venir y accoler des marques médias qu'on achetait, tu vois, au travers de plateformes programmatiques. Et en fait, c'était super et on a fait vachement de chiffre d'affaires avec et c'était génial en année une et tout, mais il n'y a aucun investisseur qui voulait me financer. Ça, je peux te dire que ça m'a fait hyper bizarre parce que, tu vois, moi qui étais habitué, tu vois, à ramer pour aller chercher du chiffre d'affaires, là, en année une, tu vois, on allait chercher entre 5 et 700. On était ravis. C'était assez chouette, quoi. On avait un super produit, sauf que le produit, on savait qu'on avait du mal à le passer en SaaS, que ça ne générait pas forcément de revenus récurrents, qu'on avait certes une techno, on avait un super bagou, on avait toutes les entrées dans les agences médias pour pouvoir vendre ça, on a signé des super annonceurs, tu vois, on a fait Galerie Lafayette, Kiri, on a fait des trucs super, MMA et tout, mais en réalité, quand j'allais voir des fonds d'investissement, ils me disaient, bah, non mais c'est une super PME, Arnaud, hein, franchement, on peut faire des belles choses avec des PME aujourd'hui, etc. Et ce qui est complètement vrai. Ce qui est complètement vrai, sauf qu'en fait, mon objectif, ce n'était pas de faire une super PME. En fait, mon objectif, c'était de lever de l'argent. Donc, en fait, ça ne répondait pas vraiment à mon besoin, tu vois. Parce que dans lever de l'argent, il y avait aussi cette idée de dire, OK, il y a des mecs qui voient ton projet, qui le trouvent canonissime, qui pensent que tu peux faire des dizaines, des centaines de millions d'euros avec. Et du coup, ils vont investir sur toi. Et je pense qu'il y avait aussi cette volonté, tu vois, qu'on investisse sur moi. Je pense que j'avais une petite faiblesse là-dessus. J'avais besoin de me prouver un truc, tu vois. Et j'avais besoin qu'on investisse sur moi. Et en fait, à l'époque, je n'ai pas trouvé de fonds. Et par chance, le Covid est arrivé. Et à ce moment-là, par chance, dans mon business, hein, j'entends, je ne dis pas que le Covid était une chance. Mais pour moi, c'était une chance. Alors, c'était une chance, mais on a perdu 40% de chiffre d'affaires du jour au lendemain, en fait. Et du coup, il a fallu qu'on réfléchisse très, très, très vite. On a tous les plans médias sont arrêtés sur Reveal, tout sur l'agence de marketing digital, pareil, tout s'est arrêté du jour au lendemain. On a perdu, je te dis, 40% de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Il a fallu aller vite, vite fait chercher du business. Et en fait, je me suis retrouvé dans à réfléchir en fait avec un vrai pain. Un vrai pain énorme qui était de dire, OK, comment aujourd'hui j'ai créé un asset énorme qui est mon réseau, qui a une valeur monumentale, qui m'a servi pendant toutes mes années d'entrepreneuriat et que j'utilise pas bien, qui m'a permis au quotidien, tu vois, de grandir, de passer d'un client à un autre client, etc. Mais que j'exploite pas.
Ouais, c'était vraiment ça la clé de ton développement. Ouais. Toutes tes entreprises, tu les as développées grâce à ton réseau.
Ouais, exactement. Ouais. Jamais j'ai décroché mon téléphone, je savais pas faire. Jamais j'ai envoyé un email froid à quelqu'un qui me connaissait pas pour dire voilà, est-ce qu'on pourrait se rencontrer. Tu vois, j'avais un peu cette insécurité là de déranger les gens, etc. Donc je pense que quand donc moi je suis toujours passé par la recommandation pour pouvoir grandir en fait et faire grandir mes sociétés. Et du coup c'est à ce moment-là que je me suis dit OK, il faut vraiment que j'utilise là cet asset que j'ai construit pour pouvoir me sortir de cette situation compliquée de premier confinement et aller chercher du business très très vite. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Refer. Et en fait, je pense que ce qui a vraiment basculé dans mon histoire, c'est en fait, j'ai décidé de faire un produit qui répondait à un vrai pain et dont les gens avaient vraiment besoin. Parce que pour le coup, moi, j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Et il y avait plein de gens autour de moi qui en avaient besoin. Et ça a été une motivation différente. Et du coup, mon rêve, pour reboucler avec la question de départ, je pense que mon rêve est devenu de faire quelque chose d'utile aux gens, tu vois. Et en plus, on était vraiment dans cette période où on avait tous envie de s'entraider. Enfin, je sais pas si tu te souviens un peu, on y avait être ton soignant, il y avait toutes ces choses-là qui se mettaient en place. Nous, on essayait d'aider la Croix-Rouge, tu vois, avec nos talents de publicitaires, de monter des campagnes pour eux, de faire en sorte, tu vois, eux qui... En fait, c'était... il y avait une sorte d'un peu d'effervescence, et je pense que mon ambition à ce moment-là, c'est devenu faire quelque chose d'utile. Et je pense que j'ai jamais été aussi dans le juste pour pouvoir monter un business qui scale, quoi. Ça a complètement changé. Et en fait, toute notre approche aujourd'hui, et toute notre approche, mon approche d'entrepreneur et l'approche de refer de cette société-là, c'est avant tout d'être utile. Et ça change tout. Et je pense que mon rêve aujourd'hui, c'est d'être utile. Et ça, pour le coup, être utile aux gens, ça m'a permis de lever de l'argent. Et tu rentres dans quelque chose de bien plus vertueux.
Juste avant de parler de refer, j'aimerais comprendre, tu as mis en stop tes autres projets, tes agences, tu les as délégués pour te consacrer à 100% à refer. Comment s'est passé? Comment tu as vécu la crise en tant que multi-entrepreneur? Parce que tu as eu plein de choses à gérer.
Ouais, on a eu plein de choses à gérer. Alors déjà, à l'époque, quand on a débuté la crise, refer n'existait pas. Refer, c'était juste un outil qu'on utilisait, nous, pour aller chercher du business plus rapidement. Et effectivement, quand on a commencé à solliciter notre entourage, ils nous ont dit « Ah ouais, votre truc, c'est vraiment canon, il faudrait que ça devienne une boîte. » Dont Olivier Mathieu. J'étais confiné pas très loin d'Olivier, et Olivier me disait « Bah oui, ton truc, c'est super, tu peux me solliciter, moi, je vais te présenter des gens, mais surtout, ça peut devenir un vrai truc. » Donc, effectivement, à ce moment-là, c'était pas vraiment une boîte. J'avais deux boîtes. J'avais une boîte qui s'était complètement arrêtée parce que tous les budgets médias s'étaient coupés, qui était Reveal, sur laquelle je galérais à trouver un positionnement parce que j'avais une idée qui, effectivement, venait modifier tout un secteur d'activité et sur lequel, en fait, j'avais beaucoup d'ambition, mais sur lequel il y avait un marché qui n'était pas si gros que ça, avec une frustration énorme de ne pas réussir à lever de l'argent dessus. Et pour le coup, Zagat, cette agence de marketing digital qui, elle, s'arrêtait, c'est pareil, s'est arrêtée complètement du jour au lendemain. Et en fait, tout s'est un peu arrêté, donc on a eu du temps pour réfléchir, en fait. Moi, si tu veux, ce premier confinement, ça a été surtout, et moi, je suis un créatif, donc j'ai vraiment besoin aussi de temps, d'espace pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser. Et en fait, je pense que ça a été une vraie bulle de création pour moi. Le fait que ça s'arrête et qu'on n'ait pas le choix, finalement, tu vois, je pense qu'on est toujours, un peu dans cette quête de ce qui doit se passer tout de suite, de rien rater, le FOMO, d'être toujours dans l'activité, etc. Et en fait, on a trop peu de temps pour s'arrêter et réfléchir et être stratégique, en fait. Et la prise de recul, tout simplement. Et je pense que pour moi, ça a été salvateur parce que ça a été une vraie prise de recul. En plus de ça, j'étais confiné, j'ai eu la chance d'être confiné. J'étais complètement par hasard au moment où tout s'est fermé. J'étais chez un ami à Marseille qui a décidé de me laisser sa maison et de partir dans les Pyrénées. Et en fait, j'ai été confiné Vallon des Auffes, à Marseille, avec quasiment la vue sur la mer, enfin un truc complètement incroyable qui m'a ouais, non, hyper sympa. J'ai été ultra privilégié et en fait ça a été ultra salvateur. C'était une bulle de créativité incroyable. Donc moi je l'ai pas mal vécu. Ça a été plutôt le retour à la réalité, en fait, au fait de devoir recommencer à travailler, plus être, c'est-à-dire à répondre à des pitchs, à machin, à se retrouver finalement, tu vois, un peu dans le quotidien, qui a été plus compliqué. Et puis à ce moment-là, en fait, cette période-là qui a duré, quand j'étais à Marseille, ça a duré à peu près 2 mois et demi, tu vois, je me sors de cette période-là, et là on décide avec mon associé de se diviser les boîtes, rester toujours que moi je reste dedans en tant que président non exécutif, qu'elle puisse prendre du capital de refer et qu'elle continue d'investir finalement dans refer et de mener de front ces deux structures. Donc en fait, les sociétés ne se sont jamais arrêtées, les deux structures continuent de vivre. Moi, je suis 100% opérationnel sur refer et elle 100% opérationnelle sur Zagat. Et du coup, c'est vraiment goupillé, tu vois, au cordeau, quoi.
Très, très clair. Il y a quelques semaines, on avait parlé justement avec Caroline au tout début, aux prémices de votre aventure, de votre levée de fonds que vous vouliez faire, le challenge. Aujourd'hui, où vous en êtes? Où en êtes-vous avec refer? Et qu'est-ce que c'est refer? Est-ce que toi, tu peux nous le réexpliquer concrètement? Qu'est-ce que c'est refer?
Ah oui, bien sûr, peut-être qu'on peut commencer par ça. Refer, c'est... en fait, refer, c'est... Tout à l'heure, j'en parle et je parle de mise en relation. En fait, on a tous créé des réseaux qui sont gigantesques, qui vont bien au-delà d'ailleurs des personnes avec qui on a vraiment des liens, etc. On connaît pas 90% des personnes avec qui on est connecté sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on ne sait pas réellement activer 5% des gens qu'on connaît vraiment. Et du coup, ça fait qu'on passe à côté de dizaines et de dizaines d'opportunités. Ça c'est le premier, je dirais, la première chose qu'on a analysée. La deuxième chose qu'on a analysée, c'est que il n'y a pas de moyen plus performant au monde pour pouvoir rencontrer quelqu'un que d'être mis en relation. Tu peux faire ce que tu veux. Si je te présente quelqu'un, toi, t'as 80% de chances de la rencontrer. Et en moyenne, on a une chance sur deux de rencontrer quelqu'un si on est mis en relation avec elle. Et donc, ça génère...
On est l'exemple aujourd'hui, tous les deux.
Bah oui, l'exemple, exactement. Tu vois, Caroline a été l'intermédiaire et du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et en fait, ça, tu remarques que ça existe partout. Et en fait, créer des relations, c'est quelque chose qui est hyper important. Entretenir ces relations, c'est quelque chose qui est hyper important. Et on a remarqué qu'en fait, aujourd'hui, on n'avait pas d'outils qui nous permettaient de bien gérer notre networking et surtout de pouvoir obtenir des mises en relation à grande échelle, de pouvoir scaler les mises en relation, scaler le networking et de faire en sorte que si je viens et je te dis « Est-ce que tu peux me présenter 50 personnes ?» que tu ne me regardes pas avec des grands yeux en me disant genre « Ah bah t'es mignon, je vais te présenter une ou deux personnes et puis ce sera tout. » En fait, aujourd'hui, Refer va te permettre de pouvoir obtenir, de solliciter toute ou partie de ton réseau et d'obtenir des dizaines, des centaines de mises en relation en quelques clics. Et du coup, tu vas pouvoir, grâce à Refer, solliciter ton réseau, mais tu vas pouvoir aussi aider ton réseau. Tu vas pouvoir le connecter, pareil, en quelques clics, avec ce qu'on appelle des mises en relation en double opt-in, c'est-à-dire que quelqu'un qui est prospecté ou quelqu'un a un talent que tu veux recruter ou que sais-je, quelqu'un que tu veux rencontrer, bah, il donnera d'abord son accord pour te rencontrer. Et à partir du moment où il est d'accord pour te rencontrer, bah, là, une mise en relation, un groupe, est créé directement dans LinkedIn dans laquelle vous pouvez discuter et la mise en relation est faite. Voilà ce à quoi sert Refer. C'est une sorte de Calendly de la mise en relation, quoi. On va rationaliser tout le process de mise en relation pour faire en sorte que ce soit que quelques clics, voilà.
Et ne plus passer à côté des opportunités.
Exactement, tout à fait.
Et alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes?
Ben, où est-ce qu'on en est? Nous, on a lancé Refer il y a 2 mois et demi maintenant. On a lancé, c'était une catastrophe. Je ne vais pas te mentir. Hein. On a lancé, alors on avait commencé à travailler notre communauté sur la base de notre vision, en fait. Tu vois, c'est-à-dire ce qui était assez chouette. Et quand tu as un produit qui répond vraiment à un besoin, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas besoin de voir ton produit. Ils adhèrent déjà à ta vision, en fait. Et Caroline a fait un petit message du coup sur son compte LinkedIn. Et là, il y a eu 350 personnes qui ont répondu, qui ont dit OK, je veux en aide, je veux participer, je veux voir la bêta, je veux tester, etc. Donc, on a finalement emmené une centaine de personnes dans un WhatsApp qu'on a rassemblé, qui sont aujourd'hui nos ambassadeurs, qui sont ultra actifs et ultra bienveillants avec nous et qui nous aident énormément. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on les a mis dans la version alpha un peu de Refer, etc. Et puis on a commencé à leur présenter. Et c'était vraiment une catastrophe. Et puis assez rapidement, on s'est dit que il fallait. On a réparé, on va dire ce qui convenait vraiment pas. Et on a très très vite lancé. Donc pendant un mois, on s'est retrouvé avec une version, si tu veux, sur les stores, qui avait de la viralité. Donc il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient dans l'application, mais les gens ne comprenaient pas vraiment comment ça marchait. Et surtout, il y avait plein de bugs. Donc pendant un mois, ça a été assez chaotique. Et puis au bout d'un mois, on a mis en ligne une nouvelle release. Et là, ça a été ça a un peu mieux pris. Déjà, il y avait beaucoup moins de bugs. Les gens pouvaient vraiment se servir de l'application, tu vois, pouvaient vraiment synchroniser leur réseau LinkedIn, pouvaient l'utiliser. Et puis ensuite, ça a été assez dingue parce qu'on est passé de 10 utilisateurs par jour. En acquisition à 20, à maintenant on est plutôt entre 30 et 50. Et ça, je te parle de un mois et demi. En un mois et demi, l'application, on a complètement restructuré son ergonomie. On a rajouté des nouvelles fonctionnalités, comme le fait de pouvoir être même proactif dans une mise en relation, dire, tu vois, comme tu commandes un Uber, bah, tu peux mettre en relation 2 personnes en 2 clics avec du double opt-in et quelque chose d'hyper personnalisé. Et en fait, voilà, et maintenant, il y a un truc qui se passe. On a vraiment complètement épuré la dette technique qu'on avait. Et maintenant, on peut avancer, tu vois, sereinement, prendre des retours. Et surtout, ce qu'on n'a jamais arrêté de faire, c'est on n'a jamais arrêté de prendre des retours des utilisateurs. Ça, c'est, on est en perpétuelle discussion avec eux. Tu vois. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on en est là. On a lancé notre levée de fonds il y a un mois. On a été un peu plus d'un mois. On a été vraiment très actifs pendant 2 semaines dessus, et surtout on voulait faire un use case pour Refer, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment utiliser uniquement Refer pour pouvoir faire cette levée de fonds. Et en 2 semaines, j'avais rencontré 45 personnes et on avait déjà quasiment 30% de commit d'investisseurs qui étaient prêts à mettre de l'argent dans Refer et qui comblaient 30%. À ce moment-là, notre communauté nous a dit hey, au fait, nous, on veut absolument en être, etc. À ce moment-là, on a lancé le Refer Challenge, etc. On a commencé à avoir beaucoup plus de visibilité sur LinkedIn, etc. Il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de Refer. Et là, la communauté s'est vraiment manifestée pour investir dedans. Et plutôt que d'aller chercher les 70% qui nous manquaient à ce moment-là chez un fonds de BA qui était déjà d'accord pour pouvoir combler un peu cette partie-là, on a dit, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire ça avec la communauté, leur faire profiter du fait qu'on soit très tôt dans les phases d'investissement pour les faire monter maintenant et qu'ils puissent profiter avec nous de la croissance de Refer, qu'ils puissent s'investir à nos côtés et avoir des vrais ambassadeurs à nos côtés. Voilà. Donc, on a décidé d'ouvrir de faire une sorte de crowd equity avec une plateforme qui s'appelle CrowdCube et qu'on va lancer là, je pense, dans un mois. Et donc, on finira notre tour dans un mois avec notre communauté. Et ça, j'ai hâte de voir le résultat. Mais je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui, ça y est, maintenant, ont bien compris la vision, voient le produit évoluer, donc sont vachement rassurés sur le produit et ont envie de faire partie de cette aventure.
Et qu'est-ce qu'une personne a gagné de partager son réseau à le faire? Parce qu'un jour, tu as soulevé une notion que j'aime beaucoup, qui est cette sorte de crédit, ce crédit de réseau social. On a tous une crédibilité et les jetons qu'on utilise à recommander des gens, c'est des jetons qu'on n'aura plus pour plus tard.
Ouais. Je vois que tu as bien écouté. Social credit. De social credit, ouais, tout à fait. En fait, alors, il y a un truc qui est évident, c'est qu'effectivement, dans la mise en relation, si tu veux obtenir des résultats, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. La première chose, c'est que, et ce qu'on dit à toutes les personnes qu'on onboard, tu vois, là, tous les jours à 17h30, on leur dit, si vous voulez obtenir quelque chose de votre réseau, commencez par donner quelque chose à votre réseau. Donc, ouvrez votre réseau. Donc, ça, c'est une vraie mécanique. Il faut se mettre dans une condition avec ton réseau qui est, on n'est pas juste là, je ne suis pas juste là pour profiter de ton réseau, mais il va vraiment y avoir de la réciprocité et de l'échange. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Commencer par ouvrir. Voilà. À partir du moment où tu ouvres dans Refer, bah, l'avantage, c'est qu'il y a une sorte de balance. Donc, tu sais combien de mises en relation tu as reçues de cette personne-là et on t'engage à toi aussi faire un geste en retour. Voilà. Ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est parfois pas suffisant. Parfois, tu sais, on t'ouvre du réseau juste parce qu'on est amis et qu'on a envie de t'aider. Parce que la personne, le connecteur, bah lui, ça le valorise aussi. Si c'est une bonne mise en relation, lui, ça peut être intéressant pour lui de dire, bah, moi, je suis à la naissance de cette histoire-là, j'étais là, c'est acté, je l'ai fait dans Refer et le truc est ancré. Voilà. Et ça, c'est aussi un point qui fait que les gens ont envie de participer. Et puis, ensuite, il y a tous ceux qui sont des super connecteurs, ont envie de rentabiliser cet asset-là et on va leur permettre à un moment donné de pouvoir aussi gagner leur vie avec de la mise en relation. Et donc, du coup, tu pourras dire, bah, tu pourras rétribuer ton réseau pour qu'il puisse te présenter tes prochains clients, ton prochain talent, trouver un job, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux avoir besoin de Refer, trouver un journaliste, trouver ton prochain business angels, etc. Voilà, il y a plein de raisons. Et ça, potentiellement, bah, toutes les personnes qui sont dans des métiers d'intermédiation les leveurs de fonds, etc., pourront avoir une vocation à être dans Refer et donc à gagner de l'argent au travers de Refer pour pouvoir faire des bonnes mises en relation fructueuses. Et du coup, ça, c'est aussi un moyen de pouvoir motiver les gens à te faire des mises en relation, c'est évidemment de les rémunérer pour. Et donc ça, c'est un peu l'histoire, c'est ce vers quoi on se dirige. Voilà la carotte, t'as raison.
En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très complète et j'espère qu'il va être téléchargé en masse. Le lien sera dans les commentaires. Mais je sais que le temps est compté pour nous. J'aimerais maintenant qu'on parle sur des questions un peu plus personnelles, comme j'aime toujours le faire à la fin des discussions, dont la première, toi, quel est ton plus grand échec ?
Je pense que mon plus grand échec, c'est de ne pas avoir su... je pense que j'ai appris très tard que je pouvais apprendre tout seul et par moi-même. Et du coup, je pense que le fait de ne pas avoir fait d'études, c'est quelque chose qui a énormément de valeur parce que je suis arrivé vraiment, tu vois, avec pas un regard formaté sur les choses, avec, tu vois, il a fallu toujours que j'apprenne par moi-même pour pouvoir évoluer, grandir, etc. Sauf que je sais une chose, c'est que du coup, aller à l'école, ça m'aurait aussi permis d'apprendre plus vite et de savoir apprendre plus vite, en fait. Parce que j'ai été toujours très lent, il a fallu que je grandisse. J'ai mis trop longtemps, je pense, à grandir, et ça, je pense que c'est mon plus grand échec. C'est celui-ci, voilà.
Très clair. Qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que tu as, ou le temps libre que tu as ? Est-ce que tu as des passions à côté ?
Ouais, moi j'ai plein de passions. Alors aujourd'hui, j'ai pas de temps libre, malheureusement. C'est un truc qui n'existe pas. J'ai trois enfants. Mes enfants font partie de mes temps libres, évidemment. Mais les enfants, c'est aussi beaucoup de gestion. Donc, il y a toute une partie que tu peux considérer comme du temps libre. Et puis, il y a un truc, c'est un peu ta troisième journée. Non, en ce moment, j'ai vraiment pas de temps libre. Et moi, je suis hyper passionné par ce que je fais. Donc, sur mes temps libres, généralement, je continue de bosser, de créer, de penser des nouvelles choses. Et quand vraiment je m'oblige à faire des arrêts, des stops dans mes journées, je fais de la musique. Je fais pas mal de musique électronique. C'est un peu mon exutoire. C'est là-dedans que je j'évacue mon stress, mes journées difficiles, etc. Je vais en club, je vais écouter de la techno et ça m'aide beaucoup. Et sinon je joue au golf beaucoup. Je suis vraiment, tu vois, un être très 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 étrange. J'écoute de la techno et je vais jouer au golf. Donc voilà, je fais ces deux choses là et puis je voyage aussi, j'adore ça.
D'accord. Quel est le conseil que tu donnes à tes enfants ou que tu aimerais donner à l'Arnaud d'il y a 20 ans ?
Écoute, le conseil que je donne à mes enfants, alors ils ont chacun des âges, tu vois, très différents, avec des conseils très différents. Ma grande, j'ai envie de lui dire, tu vois, à 14 ans, l'adolescence, c'est difficile. Il faut prendre ton mal en patience et on peut pas toujours avoir tout de suite. Il faut apprendre à grandir parfois. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai pas su faire aussi. Tu vois, j'ai été beaucoup trop vite. J'ai grillé des feux et en fait, j'ai pas pris le temps d'apprendre. Voilà. Et j'ai envie de lui dire la même chose parce qu'elle est exactement, tu vois, dans le même moule, mais avec des capacités qui sont bien au-delà des miennes. Et du coup, j'ai envie de lui dire, prends le temps de vivre les choses en fait. Essaye pas de courir toujours après des chimères. Et ça, c'est la première chose que j'ai envie de lui dire à elle. Mon intermédiaire, je lui dirais encore autre chose, tu vois. Je lui dirais... Lui, il est très différent. Si tu veux, il met pas beaucoup d'efforts. C'est un gamin qui est ultra talentueux. Dès que, tu vois, par exemple, en musique, moi, je lui apprends pas mal de trucs, tu vois, mais il déteste l'effort. Il déteste l'effort parce qu'il arrive à faire les choses, tu vois, très rapidement, très vite, etc. Mais il déteste passer du temps, pas y arriver, etc. Ça, c'est un truc qu'il déteste. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne saurais pas quoi lui conseiller parce que j'arrive pas à l'asseoir sur
des... Il a quel âge ?
Il a 9 ans. Et il est, mais vraiment, c'est incroyable, hein, tu vois, il joue des trucs incroyables, mais il a, je peux pas lui mettre un prof parce qu'en fait, il s'ennuie, je peux pas lui mettre un prof parce qu'en fait, il aime pas apprendre. Donc, ce que j'aimerais lui transmettre plus que lui dire, c'est j'aimerais lui transmettre le goût du travail et le goût de l'apprentissage. Ça, c'est un truc que j'aimerais lui transmettre. Et je sais pas encore tout à fait comment je vais le faire. Et le dernier, il a 2 ans. Donc, le dernier, c'est juste...
Oui, il y a le temps.
C'est juste, voilà, profite de la vie. C'est le dernier. Moi, je suis aussi, tu vois, je suis aussi beaucoup plus mature. Donc, j'ai une relation qui est très différente avec lui. Les premiers, j'étais vraiment, tu vois, dans l'hyper-sollicitation. Tu vois, j'étais un, en fait, c'est un enfant qui élève des enfants. Donc, à un moment donné, tu vois, il faut... J'étais vraiment, tu vois, j'ai toujours à faire des jeux avec eux, à aller sursolliciter, etc. Et en fait, je pense que j'ai une approche beaucoup plus calme avec le dernier, et ça crée aussi des moments qui sont ultra différents. Et donc, je pense que lui, tu vois, il sait jouer tout seul, il est beaucoup plus posé, calme, etc. Et c'est aussi une belle relation. Je ne sais pas trop ce que je pourrais lui dire d'autre aujourd'hui que continue comme ça.
Très clair. Quel est le morceau de musique que tu préfères ou celui qui te ressemble le plus ? Parce qu'on a parlé beaucoup de musique depuis le début. C'est quelque chose qui fait partie de ta vie.
Oh, alors ça, c'est une question qui est hyper difficile parce que je pense que j'ai... En fait, moi, j'écoute énormément de musique et puis j'écoute pas du tout un seul style de musique. J'écoute énormément de jazz, énormément de rock, de musique électronique. Tu vois, enfin, je peux être... Je suis hyper versatile en fait, et en fonction de mes humeurs, etc. Bah, je vais aller à droite, à gauche. Plutôt que une musique, j'ai des styles pour des moments de vie en fait. Et on va dire que quand c'est le matin que je travaille, que j'ai besoin de reposer ma tête, j'écoute énormément de jazz. Et pour le coup, j'écoute plutôt des trios de jazz, tu vois, des trios de jazz un peu type Avishai Cohen Trio, des Alboran, des choses comme ça. Quand j'ai besoin d'être hyper focus, etc., moi j'adore travailler en musique. Quand j'ai besoin d'être hyper focus, que j'écris, que je réfléchis, etc., pour le coup, j'écoute énormément de musique électronique. Et là, pour le coup, c'est... Ça peut être Rival Consoles, Stéphane Baudin, un peu plus violent, mais qui me tient bien concentré. Et puis après, moi j'écoute, j'écoute plein de choses le soir, tu vois, pareil, plus calme et tout. L'artiste que je préfère en ce moment, c'est un artiste qui s'appelle RYX, R-Y, plus loin X.
Okay.
Et ça, j'aime vraiment beaucoup.
Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui t'a marqué dans toute ta vie ?
Alors, moi, il y a un livre que... Alors, il y a un film que j'adore. Je vais t'en donner un de chaque, si ça ne te dérange pas. Il y a un film que j'adore et qui est, je pense, mon film préféré, qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est mon film, donc un film avec Kate Winslet comment il s'appelle, l'acteur drôle qui faisait tous les trucs humoristiques, Jim Carrey. Voilà, j'ai mis un peu de temps avant de le sortir, mais je l'avais sur le bout de la langue. Jim Carrey, qui est un film tourné, réalisé par un réal français, et qui est juste extraordinaire. Alors, c'est une histoire d'amour, mais ça dit qu'en gros, tu peux pas passer à côté de ton destin, en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux pour agir dessus, tu peux agir dessus, tu peux faire plein de choses, mais il y a des choses qui reviennent sans cesse, et que, en fait, c'est difficile de cramer les étapes, et tu repasseras toujours par les étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir grandir, en fait. Et donc, du coup, c'est un film extraordinaire sur une entreprise, une start-up qui se crée pour pouvoir effacer les gens de ta mémoire quand tu veux plus les avoir dans ta mémoire, tu vois, sur des histoires d'amour difficiles, etc. Et en fait... Il se rencontre tout le temps, etc. Je raconte pas le film, mais c'est vraiment un film extraordinaire, et je trouve que ça résume assez bien la situation. Et puis d'un point de vue plus business, pour le coup, j'ai un livre que j'adore qui s'appelle Hook, qui, en gros, t'explique comment tu vas catcher l'attention des gens dans une application, comment tu vas faire ton appli pour générer de la rétention, qui te donne en fait tous les tips et tous les sujets sur lesquels les mecs qui font des Candy Crush, des jeux, etc., font en sorte que tu sois complètement accro de leurs applications. Alors même s'il y a un pendant hyper négatif à tout ça, je trouve que ça amène quand même un truc qui est hyper important sur la rétention, sur tout ça dans ton application. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses avec ce bouquin. Voilà. Donc, je le conseille.
Alors, je note qu'on deviendra tous bientôt accro à Reefer.
C'est ça. On y travaille, en tout cas. Mais faut que vous gardiez la santé, quoi. Faut pas passer sa vie à faire des mises en relation si ça vous rend malheureux. Voilà.
Merci beaucoup pour tes mots. Une dernière question, si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire ?
Alors, moi, on peut me joindre sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde. J'essaye de répondre à tout le monde. J'ai beaucoup, beaucoup de conversations ouvertes, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Et on peut me joindre sur LinkedIn. On peut aussi me joindre sur le Discord de Reefer, qui est accessible depuis notre site web, je crois, dans lequel il y a toute la communauté de Reefer. On peut suivre à la fois notre actualité, rencontrer plein de personnes exceptionnelles de la communauté qui sont hyper bienveillantes. Tu vois, il y a tout un état d'esprit autour de Reefer qui est en train de se construire. C'est-à-dire, c'est drôle, c'est même quasiment pas moi qui construit tout le mindset autour de Reefer. C'est la communauté qui le met en place, et c'est un truc, c'est magnifique. Et du coup, on peut rencontrer toutes ces personnes-là aussi dans le Discord. Voilà, il y a plein de choses. On fait des town hall, il y a plein de choses qui se mettent en place dedans, et on peut suivre toute l'activité. Et puis on va pouvoir suivre aussi la levée bientôt, je pense d'ici 3 semaines, 1 mois, on donnera toutes les informations dans le Discord pour que vous puissiez investir si jamais ça fait envie à quelqu'un.
Je vais mettre les liens dans la description. En tout cas, merci beaucoup de ton temps et je te dis à très vite.
Merci beaucoup à toi pour cette invitation. C'était hyper cool de parler avec toi. Salut Aymeric.
Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.